tickle. My tickle.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, un atelier un peu particulier aujourd'hui parce que c'est une émission surprise et comme on aime bien les choses littérales à l'atelier, c'est une surprise également pour moi puisque je connais les éléments qu'on va entendre dans l'émission mais je ne connais pas l'ordre, je ne sais pas ce qui a été choisi. La personne qui sait exactement ce qu'on va entendre aujourd'hui et qui va comme toujours fabriquer cette émission est avec moi en studio et c'est Simon Decreuse. Salut Simon.
Salut Ziad.
Et on va, je crois, commencer par une tradition, qui est une tradition que j'ai abandonnée avec le temps dans l'atelier, mais qui est celle d'ouvrir l'émission avec un membre de l'atelier. C'est comme ça qu'on appelle.
Pas le moindre.
Et pas le moindre, un membre historique qui est également un membre historique de notre plateforme Mondoblog, qui est René Jackson et qui nous envoie cette correspondance sonore depuis le Cameroun où il habite.
Hello Ziad, c'est René depuis Douala. J'ai appris la nouvelle de ton départ de l'atelier des médias et je l'ai accueilli avec beaucoup de tristesse et beaucoup de pincements au cœur. Alors ce petit message, c'est juste pour te souhaiter bon vent, te souhaiter aussi d'avoir beaucoup de succès dans la nouvelle aventure dans laquelle tu te lances à partir de maintenant. C'est ta dernière, ce qui est sûr, c'est que je vais l'écouter. Je vais te remercier pour la connaissance que j'ai acquise auprès de toi, pour tes coups de gueule, pour tes conseils. Aussi pour ce beau projet Mondoblog, par l'entremise duquel on s'est connus. Donc, je ne peux que te remercier et terminer par te souhaiter bon vent et plein de choses. À bientôt.
C'est touchant.
Ouais, ouais, c'est très touchant. Alors, il faut que je précise. Donc, effectivement, j'arrête aujourd'hui. Donc, c'est l'atelier des médias. C'est la dernière émission que je présente de l'atelier. Enfin, jusqu'à... Sauf retournement complet de situation. Mais j'arrête l'atelier parce qu'en fait, je pars en congé paternité. Ça, c'est une excellente nouvelle. Cette fin de semaine, avec un garçon qui va naître bientôt ou qui sera peut-être né au moment où vous entendez, puisqu'il y a toujours un petit décalage. Voilà, donc ça c'est la très bonne nouvelle. Et un peu plus triste, je quitte Radio France Internationale avec plaisir. Je quitte 17 ans, ou 18 ans pratiquement dans cette radio. 17-18 ans de plaisir qui ont commencé par un simple mail que j'ai envoyé en 2000 à Ludovic Duno. Voilà, les chemins de Ludo à l'époque. Je disais que j'aimais ce qu'il faisait et je lui demandais comment est-ce qu'on faisait pour fabriquer les choses comme il les fabrique. Et il m'a très gentiment répondu. Il m'a accueilli en stage, il m'a fait faire beaucoup de copies de ses anciennes émissions et en parallèle, il m'a appris à monter, etc. Et grâce à lui, j'ai pu rester ici, apprendre un métier passionnant que je vais continuer à pratiquer, mais peut-être qu'on va en parler au fur et à mesure. On a plein de choses à écouter.
C'est le concept.
6 février 2010.
Bonjour, c'est l'atelier des médias.
Bonjour, je m'appelle Ziad Malouf, je travaille à Radio France Internationale. Jusqu'à maintenant, je travaillais un étage en dessous de votre bureau.
Alors ça, c'est ma première séquence de l'histoire de l'atelier des médias. Donc, c'était la tradition à l'époque, on parlait au téléphone au début et là, c'était celle où on avait décidé d'annoncer que Philippe Couve, le créateur de l'émission, partait et que je reprenais.
Et Ziad, tu vas prendre d'ici quelques semaines les rênes de l'atelier des médias. Bienvenue à bord.
Merci.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette émission et qu'est-ce que finalement progressivement elle va devenir ?
Ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est son côté exploratoire à tous les niveaux, c'est-à-dire...
Avec un peu de timidité même dans la voix.
Ouais, beaucoup, ouais. C'était pas évident, hein, franchement, de parler à Philippe qui a arrêté l'émission. Alors que j'avais franchement aucune idée de ce que j'allais faire, mais je savais pas si j'allais y arriver, en fait. C'était vraiment un défi pour moi.
Et puis il faut signaler quand même, à l'époque, il y a des collègues plus expérimentés, chevronnés, qui ont refusé de reprendre cette vacation, et c'est qui leur faisait peur en réalité. Ils se sentaient pas les épaules de reprendre une émission aussi complexe.
Mais l'idée quand même et la raison pour laquelle je suis là, c'est pour continuer ton travail, Philippe. Et d'ailleurs, je vais me transformer en intervieweur et je vais te demander pourquoi tu quittes l'atelier des médias.
Ben, je vais quitter pour aller mener d'autres aventures après une longue période, 17 ans passé à RFI. Où j'ai
17 ans, 17 ans. J'avais pas remarqué, je savais pas.
Aujourd'hui, des opportunités s'offrent à
la
moi
crise des 17 ans.
Explorer toujours les nouveaux médias, mais sous d'autres cieux, sous d'autres formes. Et donc, ben, je profite de cette occasion et de cette opportunité qui m'est offerte.
Alors du coup, je crois que tu as choisi plusieurs extraits, Simon, de moments historiques.
Oui, il y a un moment qui a été aussi important pour toi que pour moi, ça a été la révolution tunisienne, le début du printemps arabe. Et on a eu l'opportunité de débarquer à Tunis très peu de temps après le départ de Ben Ali, et on a été projeté tout de suite dans un aspect extrêmement militant des réseaux sociaux, du blogging, de comment, grâce à ces outils numériques, la parole s'est libérée. Et on a débarqué, toi et moi, à Tunis, on connaissait un peu l'environnement numérique. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des barcamps, donc des réunions informelles où les gens ne se connaissent pas forcément, ils se réunissent, on n'a pas de but, mais ensemble, on va discuter, on va voter des thèmes à débattre ensemble et puis rapporter aux autres tout ce qui a été débattu dans les différentes commissions.
Et on a décidé, donc à l'occasion de notre présence à Tunis, d'organiser le premier barcamp tunisien d'après le départ de Ben Ali. C'était une période d'exaltation, une période de fantasme aussi. Hein. On avait l'impression que l'Internet tout puissant, que les réseaux sociaux, ces outils d'émancipation, de communication, etc., allaient avoir vraiment un effet d'émancipation des peuples, un effet bénéfique pour les démocraties, etc. Alors, la Tunisie est encore plutôt exemplaire dans ce domaine. Enfin, il y a eu des élections, il y a vraiment eu un changement. Dans la plupart des autres pays qui ont suivi, les choses ont changé assez vite et finalement, on est un peu retombé et on parle beaucoup plus aujourd'hui des défauts et des dangers que représentent les outils comme les réseaux sociaux, etc.
19 février 2011.
Et ça, ce sont des photos que j'ai prises le premier soir du couvre-feu. Je suis sortie pendant le premier jour du couvre-feu et j'ai pris des photos de Tunis la nuit. C'est l'avenue Habib Bourguiba le premier jour du couvre-feu.
C'était interdit ça de sortir.
Je suis sortie. Je voulais sortir, je suis sortie.
T'es consciente que cette révolution, c'est des gens comme toi, c'est les blogueurs qui l'ont fait?
En fait, moi je dirais pas qu'ils l'ont fait, mais qui ont aidé à le faire, parce qu'il ne faut pas oublier les gens sur terrain qui manifestent et les gens qui sont morts pour cette révolution. Nous, c'est plutôt la diffusion de l'information.
Ça suffit Internet, Basile, tu dois aller dormir.
5 minutes, j'ai encore des trucs à faire.
Couillaté, déconnecte-toi de l'Internet et va te coucher. Oh Simon, tu peux te déconnecter?
Christelle, je dois envoyer un email à
l'atelier des médias.
Cédric, j'ai besoin de ton ordinateur.
Ziad, il y a Internet qui ne veut plus marcher. Il n'y a plus Internet, on n'a plus rien.
Mais comment on faisait pour avoir des infos avant qu'il y ait Internet?
Atelier@rfi.fr.
Très bien Internet, attendez-vous d'un monde de blogueurs.
RFI. Donc ça, 2011, grosse étape, puisque 2011, c'est l'arrivée de Mondoblog. Et ce qu'on a entendu, en réalité, ce sont les blogueurs de Mondoblog qui étaient des auditeurs de l'Atelier des médias. Et comme ils connaissaient tous les habillages de l'Atelier des médias, on a refait les voix des habillages de l'émission avec la voix des Mondoblogueurs.
Cyriac, à toi.
Ouais, celui qui vient maintenant, je l'appelle affectueusement Tonton Charlie. Ne me demandez pas pourquoi, parce que ce qui se passe à Dakar reste à Dakar. Donc, monsieur Kongosa, que tout le monde connaît. Ouais, Florent Gubiz, famille, oh. Ah.
Salut Cyriac. On dit Nangadev les amis. En fait, mon Dakar, c'est en mode Wolof. Depuis que je suis arrivé à Dakar, j'ai rencontré 50 autres blogueurs, les Niak. Il paraît que c'est comme ça qu'on appelle les étrangers par ici. On bavade, on clavade, il y a toutes les représentations. Il y a le Kwakwatoya là, les Ivoiriens, le Legede, les Togolais, le Kongosa moi-même, le Nafiria, les gens de Guinée là. On est tous des rêveurs. On est ici parce que déjà on partage des idéaux, mais on est aussi ici pour s'amuser. Donc Dakar, c'est Dakar la nuit. Dakar la nuit, c'est sortir. La nuit, sortir, c'est prendre un taxi. Et ce que j'ai découvert à Dakar, c'est que les taxis, c'est toute une histoire. Les taxis dakarois, en fait, c'est Mr. Jekyll, je crois que c'est Dr. Jekyll et Mr. Wolof. Le taxi dakarois, quand on le prend, il parle français parce qu'il faut négocier la direction, il faut négocier tout. Mais quand on est perdu, il parle Wolof. Parce que là, on ne sait plus où on est.
Ah, c'est vrai.
Et nous, on est allé chez Charlie. En fait, on n'est jamais arrivé chez Charlie. Mais au moins, on a pris le taxi qui allait chez Charlie. On a fait 2 heures dans un taxi, enfin, une marque de voiture que je croyais qu'elle n'existait plus. Mais au moins, je l'ai découverte à Dakar. On a pris la route d'Angor. On a failli arriver à Angor, mais on n'est pas arrivé à Angor. Ouais, les taxis de Dakarois, je crois que c'est bien. Ça a des côtés un peu bizarres quand on n'est pas habitué. Mais on ne s'ennuie pas à Dakar. Donc, du coup, je vais vous dire, à Dakar, on bouffe du tiep, c'est vrai. On a des taxis qui nous emmerdent un peu, c'est vrai. Mais en espérant qu'il y ait un Mondo Bloc 3, je compte bien revenir à Dakar. Babé Yon Yon.
5 novembre 2011.
Bonsoir, il est 22h. Vous avez défini votre paramétrage avec la voix de Romain Saillé pour ce flash d'actu personnalisé.
Bonsoir à tous, l'information principale de ce jeudi 23 juin, c'est un tremblement de terre qui a secoué le Japon aujourd'hui, aucun tsunami n'est à déclarer. Mais attention, Marion Jonas et Philippe Caduc, vos amis d'enfance, étaient dans cette région au moment de l'incident. Ils ont rapidement envoyé un message pour dire que tout allait bien. Le président de la République a lui aussi souhaité adresser un message via son compte Tweetbook. Je cite, nous sommes mobilisés pour venir en aide aux Français sur place, tous les ressortissants devraient pouvoir rentrer avant demain, 14h, fin de citation. Aujourd'hui également, un incendie a eu lieu dans un immeuble rue Champagne à 87 mètres de votre domicile. Plusieurs messages confirment qu'il n'y a pas eu de blessés. Les pompiers sont arrivés heureusement assez rapidement sur place. Il serait préférable d'appeler votre famille pour les rassurer. Il semblerait que l'origine de l'incendie provienne d'un four électrique du même modèle que le vôtre. Un réparateur devrait venir demain changer une pièce défectueuse. Une note a été ajoutée à votre to-do list de la journée.
Silicon Radio.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert le futur?
Bonjour, je suis Ali Mousso et je vis à Conakry en Guinée.
Alors à quoi sert le futur? C'est alors, tu as fait un choix stratégique des extraits qu'on entend aujourd'hui. C'est un des premiers événements publics qu'on a fait et c'est un clin d'œil parce que c'est vrai que c'était une question un peu audacieuse. C'était une idée de Philippe et d'un média qui a disparu depuis qui s'appelait OVNI.
Et Silicon Maniacs de la cantine.
Voilà, qui a aussi disparu. Et voilà, et c'était très amusant et assez marrant comme question, à quoi sert le futur, c'était absurde. Et en même temps, le résultat de l'émission était assez séduisant. D'ailleurs, il y a des auditeurs à Dakar qui m'ont dit que c'était un peu leur émission de chevet, à quoi sert le futur, voilà, que c'était un peu une référence, parce qu'il y avait des questions assez profondes finalement qui avaient été débattues ou abordées dedans.
Et en plus, on avait fait intervenir le questionnement africain du futur, puisqu'on avait plusieurs blogueurs à l'intérieur de l'émission qui se projetaient complètement dans cette question et qui donnaient leur ressenti. Et ce qu'on a entendu, c'est Romain Saillé qui a essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler un réveil matin organisé par Google. Et en réalité, je me souviens très bien qu'à l'époque, c'était pas si évident d'imaginer que ça se déroule comme ça, alors que maintenant ça nous semble presque banal.
Ce qu'il raconte, aujourd'hui les enceintes connectées, c'est vraiment vers ça qu'elles se dirigent, c'est-à-dire des assistants personnels qui expliquent et qui racontent des choses, et notamment dans la phase du réveil, où c'est une phase où les gens sont par définition chez eux.
Ouais, mais là on est en 2011, donc les enceintes connectées, personne n'en parle.
20 avril 2013.
Bollywood Teranga, les médias indophiles au Sénégal. C'est un reportage réalisé par Simon De Creuse en collaboration avec l'équipe de l'Afrique Enchantée de France Inter qui diffuse ce dimanche une émission autour du même thème. Une façon pour nous tous de rendre hommage au cinéma indien qui célèbre cette année son centenaire.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
C'est ici Radio Dunia. Nous appelons Mamadou Pam.
Là, on se dirige vers le studio, c'est ça?
Oui, pour préparer notre émission qu'on fait tous les mercredis et tous les lundis ici à la Radio Dunia. L'émission s'appelle Musique et Culture de l'Inde. Tu sais, nous, les deux pays-là, ils ont des cultures communes. La façon qu'on fait notre mariage, la façon qu'on va éduquer nos enfants et tout ça. On a beaucoup de choses communes, et nous les Sénégalais et les Indiens.
Ça, c'est un extrait d'un reportage qu'on a tourné au Sénégal à l'occasion d'une formation Mondoblog. On a profité de notre présence pour tourner ce reportage qu'on a appelé Bollywood Teranga. Donc Bollywood, c'est le cinéma indien. Teranga, c'est le mot qui... Donc c'est l'accueil en Wolof. Donc c'est le mot qui désigne souvent le Sénégal. Et en fait, l'idée était d'aborder un phénomène qui est plutôt méconnu dans le monde. C'est l'importance du cinéma indien dans la culture du Sénégal et dans la culture de beaucoup de pays d'Afrique, au point où il y a plusieurs émissions de radio, donc c'était ça le cœur de notre émission, plusieurs émissions de radio qui sont consacrées aux films et aux acteurs du cinéma indien, où les présentateurs, ça c'est la particularité, souvent parlent hindi, non pas parce qu'ils sont allés en Inde, mais parce qu'ils ont appris en regardant des films. Donc les émissions sont souvent à moitié en hindi, à moitié en wolof, et les présentateurs que j'interviewais donc dans le reportage montrent qu'ils parlent hindi et disent des mots en hindi, etc. Et c'est assez impressionnant.
Bonjour Abdelhamid Amrouni.
Bonjour Zia.
Tu viens toi de Benghazi, c'est ça?
Là on est en 2013, donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, Simon, et on a été contacté en fait par l'Union Européenne, qui nous a contacté, nous et les observateurs de France 24, avec lesquels on faisait une chronique hebdomadaire, avec lesquels on s'entendait très bien, Julien Pin qui a quitté France 24 depuis, et ils nous ont contactés parce qu'ils avaient envie de lancer un projet média sur la Libye, un projet média et web. L'Union Européenne avait financé des projets télé, des projets radio, et ils avaient personne, ils connaissaient personne. Et en lisant un article du Monde consacré à une opération qu'on avait faite avec les observateurs de France 24
pour couvrir
les élections au Sénégal en 2012, donc à la lecture de cet article, des responsables d'un département de l'Union Européenne ont eu l'idée de nous proposer de faire un projet, les observateurs et l'atelier des médias, sur la Libye. Donc c'était l'aventure Libya Blog qui a commencé, qui a duré 2 ans, qui a nécessité pour nous 5 ou 6 voyages en Libye. Et donc ça a été surtout pour nous l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires, des personnes qui sortaient de plusieurs années de dictature, qui entraient dans plusieurs années de guerre et qui étaient d'un courage et d'une détermination sans limite pour communiquer, apprendre, échanger et aussi découvrir, et c'est ça qui avait frappé tout le monde, qu'il existe dans le monde arabe une classe moyenne, jeune, extrêmement ouverte d'esprit, qu'on entend peu parce qu'on va souvent entendre les extrêmes ou les personnes un peu caricaturales, qu'on entend très peu, mais qui vit avec les mêmes références que la plupart des autres jeunes du monde. Et c'était important, en fait, et c'était ça l'idée de ce projet. Et en tout cas, dans nos rencontres, c'est ce que ça a donné. Ça a montré que ces personnes-là existaient, même si on ne les entendait pas.
20 avril 2013.
J'avais surtout besoin d'un espace pour moi. C'est pour ça que je suis allée vers le blogging. Quand je rapporte en fait la pensée des autres sur Facebook, ça ne me permet pas de donner mon avis, de ce que le blog me permet, m'offre cet espace-là où je peux m'exprimer, dire ma pensée, mes impressions, mes orientations intellectuelles. Par exemple, j'ai écrit sur le paysage médiatique en Libye. En tant qu'observateur, en tant que passionné du paysage médiatique, je suis une personne qui écoute la radio, qui regarde la télé, qui lit les journaux libyens. Créer un blog dessus me permet de dire ce que moi je comprends de ce paysage, de ce que moi j'en déduis. La presse est presque un nouveau concept en Libye. Le régime Kadhafi avait la main mise dessus. Pour l'instant, il y a une liberté d'expression réellement en Libye. La première raison étant qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de ligne rouge, du fait qu'il n'y a pas encore de loi, de constitution qui ordonne, qui organise ce milieu. Il y a une expression, un slogan presque très courant en Libye qui dit « la Libye est une seule et unique tribu ». Et ça, c'est une grosse erreur. Penser que l'autre est une copie, une photocopie de toi, c'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur de la diversité.
Atelier@rfi.fr.
Je ne veux pas pourrir dans le fond d'un cercueil, ni voir la meuf de l'accueil qu'il y a au paradis. Je veux rester ici avant que la faim me cueille, comme on cueille une pomme. Même si c'est dur des fois, c'est mieux que d'avoir la foi. C'est mieux qu'une crise de foi, ou qu'une seule rage dedans. La vie ça vient qu'une fois. Et ça passe comme une danse, danser près de la mort. Danser près de la mort, au pied de ta maison. Les murs de la misère, les clés de ta raison. On est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt.
On est, on vit, on meurt. L'œil trouble, on vit l'odeur. Un monde moins sentir douleur. Des mots malsains nourrissent les peurs. On est, on vit, on meurt. Aimez vite mes sœurs. Regard humide, la gorge au cœur, chaleur canine, poumons, mes cœurs, on est, on vit, on meurt.
Si je passe le temps, on vit, on sans un
intérêt pour ça. La vie c'est fait pour ça. C'est tester sa naissance. Aimer tous les moments. C'est se mentir dans le sens. C'est se mentir dans le froid. C'est noyer son essence. C'est lâcher le combat. De l'infiniment petit face à l'infiniment grand. Se perdre dans le profond. Sans voir à la surface. Dans les mots d'un prophète. Les réponses aux questions, je les laisse aux grosses têtes.
On vit, on meurt. Aussi vite qu'un cri, qu'un pleur. Aussi bête qu'un vide, qu'une fleur. On est en vie, on meurt. Aussi rien qu'un fil, qu'une heure. On est en vie, on meurt. On est en vie, on meurt. On est en vie, on meurt.
3 mai 2014.
Moi, mes questions sont très simples.
Hein. Non, mais.
C'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS?
Non, moi, ma remarque est. Vous affirmez que l'administration a été alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi l'administration n'en fait rien.
Ça, c'est en second rideau. La première question, c'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS?
Parce que je n'en ai pas.
Parce que vous n'en avez pas?
Non, c'est ce que je vous ai dit, je n'en ai pas, j'ai jamais eu.
Vous n'en avez pas, vous n'avez jamais eu. Vous, vous maintenez ça, vous n'avez pas eu ce compte à l'UBS.
Je peux le répéter jusqu'à la cinglingue, hein. Je vous l'ai dit.
C'est bien de le.
Alors là, c'est un peu l'exclusivité que tu as réussi. Alors ça, c'est un document sonore, en fait, une de nos émissions phares. Et ça, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent régulièrement, y compris des collègues à Radio France Internationale qui se reconnaîtront. C'est une émission qui, à l'époque, nous avait paru assez audacieuse. C'était donc Fabrice Arfi qui expliquait comment il avait mené son enquête sur l'évasion fiscale de celui qui était alors le ministre Cahuzac. Et en fait, moi, j'avais juste enregistré une formation qui se tenait à Tunis, j'étais là à l'occasion de Libia Blog, je crois. Il se trouve qu'on était là en même temps que Mediapart qui faisait une formation. Et Fabrice Arfi a expliqué à un parterre de journalistes maghrébins comment il avait fait pour... c'est passionnant, en fait. Il venait de publier un livre où il racontait la même chose, et c'est passionnant. Et c'est une leçon de journalisme à tous les niveaux. Et ce qui est l'extrait en question, là, c'est ma petite fierté, c'est qu'après avoir décidé de diffuser ce son, qui était un son quand même particulier, parce que c'était comme une conférence, mais en fait, ça ne s'entend pas dans l'émission, qu'on peut encore trouver d'ailleurs facilement sur Internet, c'est une de celles qui a été le plus écoutée de l'atelier des médias, eh bien, après avoir décidé, j'ai recontacté Arfi parce qu'à un moment dans la formation, il disait que quand il avait rencontré Cahuzac le matin avant de publier le premier papier, donc pour avoir du contradictoire, c'était glacial, il explique, et il dit Cahuzac a posé son téléphone sur la table, il a dit je vous préviens Jean-Giste, et Arfi explique, il dit moi j'ai fait pareil, j'ai dit je vous préviens Jean-Giste, j'ai posé mon téléphone.
Ça ressemble à un western.
Voilà, ça ressemble à un... Et du coup, je me suis dit mais le son doit exister. Alors j'ai contacté Arfi, j'ai réussi à savoir que le son existait et qu'il avait été conservé parce que c'était une preuve et qu'il y a eu des poursuites judiciaires, etc. Et j'ai harcelé Fabrice Arfi en suivant ses conseils, je l'ai harcelé. C'est-à-dire oui. Qu'il avait dit, quand on vous refuse quelque chose, ne lâchez pas l'affaire. Donc ouais. Je l'écoutais en train d'expliquer ça et à chaque fois ça me redonnait du courage pour le relancer, pour qu'il me donne le son, parce qu'il n'y avait pas de contre-indication, tout avait été jugé, tout était terminé, etc. Et il a fini, c'est François Bonnet, donc son rédacteur en chef, qui a fini par nous l'envoyer. Et donc j'étais très content de pouvoir le diffuser.
Ça, c'est l'aspect éditorial, mais cette émission, elle marque un tournant au niveau de la forme. Si tu te souviens bien, c'est cet enregistrement total de l'histoire d'Arfi. Tu l'as gardé peut-être 8 mois sur ton ordinateur,
ouais.
Parce qu'on se disait... Nous, notre émission, elle est faite d'actualité, de petits bouts qui racontent
de chroniques, etc.
De chroniques.
Ouais.
Et là, tu as cette archive que tu écoutes de temps en temps et qui, à force de l'écouter, tu te dis mais en fait, cette histoire est tellement passionnante, elle est tellement bien racontée qu'elle n'a besoin d'aucun artifice si ce n'est de permettre de la rendre publique et de la diffuser.
Mmh.
Et bon, évidemment, il y a du montage, évidemment, il y a du travail, mais tout le talent de cette émission réside dans le talent de conteur et de narrateur qu'est Fabrice Arfi. Et pour nous, ça a été un tournant puisqu'on s'est dit le plus important pour faire de la radio, c'est de raconter une histoire.
C'est clair.
RFI.
Salut, c'est Ziad Malouf et Simon Decreuse de l'Atelier des médias. Cette semaine est particulière à RFI. Dimanche, nous commémorons le premier anniversaire de la mort de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés et assassinés au Mali le 2 novembre 2013.
Ça, c'est en fait, malheureusement, donc les auditeurs de RFI le savent, en novembre 2013, deux de nos confrères ont été assassinés au Mali, Ghislaine Dupont
Dupont et Claude Verlon. Et bon, on avait tous été très très affectés, mais également les auditeurs qui ont été des milliers, des millions peut-être à écrire et à manifester leur tristesse. Et un an plus tard, donc à l'occasion d'une journée d'hommage et contre l'impunité des crimes visant des journalistes, on a décidé de faire une émission spéciale et on a demandé à nos blogueurs s'ils avaient envie de participer. Et Dania Ebongué, donc qui fait de la radio et de la télévision au Cameroun, nous a envoyé un texte magnifique qu'il avait enregistré et que toi tu as mis en ligne.
Dania Ebongué, journaliste au Cameroun pour la CRTV Yaoundé et blogueur sur Mondoblog et sur l'atelier des médias. Dania a souhaité participer à cette émission et nous l'en remercions.
Merci d'écouter RFI, il est 15h à Paris, 13h à Bamako et en temps universel.
Le jour où mon micro s'est tu. Il y avait comme un air de froid, il y avait comme un air d'effroi, le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Silence radio. Les ondes du monde devinrent immondes. Oui, le jour où mon micro s'est tu, la parole fut arrachée par la rue publique à la place de la République. La rumeur grimpait au gré de ses humeurs et il n'y avait plus de traces de la vérité ni de traces de la mémoire vive contemporaine. L'historien du présent, qu'est le journaliste, fut remplacé par un club d'imposteurs qui se faisait passer pour des confrères. Non, ce n'étaient pas des confrères, mais des frères cons. Ils envahissaient les bars de Yaoundé, les maquis de Cocody et les marchés de Bangui. Chacun y allait de sa fausse histoire et le peuple gobait. Il ingurgitait ce liquide édulcoré qu'est la désinformation. Il avalait cette pilule et se consolait de ses faux témoins oculaires, ravis de voler la vedette aux journalistes d'hier, muselés par la censure, prisonniers de la torture, victimes de l'imposture. Il y avait comme un vent trop froid le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Le plus beau métier du monde. Ce jour-là pourtant, un journaliste est mort. Jean-Hélène, c'était un triste 21 octobre 2003. Et pourtant pour lui, être journaliste, c'était le plus beau métier du monde. Il est mort pour ce qu'il aimait faire, informer. C'était le plus beau métier du monde pour celui qui, même au plus profond de la frayeur journalistique, savait dire en direct.
Voilà comment ça se passe, c'est dans l'hôtel ici où nous sommes réfugiés, Mille Collines, les gens ont peur, même les blancs ont peur, oui.
Le jour où son micro s'est tu, on a tous eu une âme de reporter. On a compris que s'il n'était pas là, on n'aurait pas eu les échos du génocide rwandais ou ceux de la guerre civile ivoirienne. C'est vrai que pour nous, RFIDEL, le micro des journalistes de cette chaîne était le pont entre l'imaginaire d'une réalité lointaine et la vérité d'une information sur le terrain. Ghislain Dupont et Claude Verlon étaient justement deux professionnels du terrain. Leur micro s'est tué un 2 novembre au nom de l'information sur le terrain du conflit malien. Encore, me suis-je dit. J'avais le souvenir d'un autre micro qui s'est tué le 11 novembre 2001, celui de Joanne Sutton. Elle berçait ma tendre enfance à Douala lorsque les ondes FM de Malabo envahissaient la capitale économique du Cameroun. Le micro de Joanne s'est tué en Afghanistan. Sans elle, je n'aurais pas su. Sans elle, je n'aurais pas entendu. J'ai donc compris que le jour où mon micro s'est tué, il n'y avait plus de liberté d'expression, plus de droits de l'homme, plus d'opinion, plus d'alternance. Il n'y avait plus l'espoir d'un nouveau lendemain, d'un progrès possible, d'une révolution des mentalités. Le jour où mon micro s'est tué, la parole fut bâillonnée, l'information fut scellée, la vérité fut démentie. Ce jour-là, rien ne bougea en Afrique. Les mêmes dictatures s'éternisèrent au pouvoir. Les mêmes propagandes religieuses s'enracinèrent dans les cœurs des hommes et des femmes. Plusieurs radios Mille Collines virent le jour et la haine fut la devise du continent. Ils encouragèrent la corruption, promurent le tribalisme, développèrent le clanisme. Parce que mon micro s'est tu.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est qu'en fait, c'est un terrain qu'on a très peu expérimenté dans l'atelier des médias, parce que c'est pas notre cahier des charges, mais on est purement dans de la fiction. Bon, il faut dire que Dania est aussi vraiment un professionnel de la radio-télé au Cameroun, donc on comprend qu'il ait des réflexes, mais il nous a vraiment surpris par ce texte, et ça a été l'occasion d'essayer de faire de la fiction qui soit en même temps de l'anticipation, et qui résonne complètement avec la thématique de l'émission qu'on traitait cette semaine-là.
RFI. Je suis sûr d'une chose. Twitter, les blogs, les médias enrichis, toutes ces choses n'ont aucune profondeur. Elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
13 juin 2015.
Nous vivons dans un monde incertain. La science, les technologies, l'Internet en ont redessiné les contours, les possibles, d'une manière radicale. Nous cheminons tous dans ces nouvelles réalités, entourés des héritages vieillissants d'un temps de surconsommation, de violence, d'asservissement, sans savoir si nos pas mènent vers des sommets ou des tréfonds. Mais pourquoi nous raconte-t-il tout cela alors qu'il nous a dit qu'il allait parler de jeux aujourd'hui ? Parce que, et là, je cite mon invité, le jeu est un espace de remise en cause. Remise en cause de soi, remise en cause des valeurs et remise en cause d'une société. Il est donc un espace de renouvellement, un lieu des possibles, un pervers polymorphe en quelque sorte. Les cultures ludiques expriment ce vitalisme primitif qui anime de convulsions l'homme qui est face à la mort. Mort de soi, mort des autres, mort d'une société, peu importe, la société qui joue est une société qui apprend à mourir et devient une société de philosophes. Bonjour Aurélien Fouillet.
Bonjour.
J'ai ouvert. Alors ça c'est. On a choisi tous les deux de mettre un extrait de cette émission pour plein de raisons. Alors d'abord parce que donc ça date de 2015 aussi. C'est juin 2015 je crois la première diffusion. D'abord parce que c'est vrai que c'était un virage. C'était le début d'un virage dans l'atelier où on a commencé à faire venir beaucoup de sociologues et de philosophes à cette époque parce qu'on sentait en fait que après la période d'exaltation des printemps arabes où les outils étaient une fin en soi etc. On sentait que ces outils étaient un peu à double tranchant et on avait besoin, et il y a eu beaucoup de sociologues et de penseurs qui ont commencé aussi à avoir besoin d'expliquer les choses avec plus de nuances. Donc première raison. Deuxième raison, je trouve que c'était assez marquant parce que c'était donc un sociologue qui parlait du jeu et de la place du jeu dans les sociétés, ce qui est bon, quand même quelque chose dont on parle peu.
Alors que tout le monde joue.
Alors que l'industrie du jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde. C'est un sujet dont on parle très peu. Et ce sociologue explique dans son livre, avec un caractère un peu ésotérique, hein, j'ai lu des passages, et d'ailleurs une partie, on ne sait pas si c'est moi qui... moi aussi, ça m'avait donné un petit côté ésotérique dans mes micros. Je ne savais même plus si c'était lui ou moi que je lisais, mais la place du jeu dans les sociétés, l'importance du jeu dans la construction du vivre ensemble, ce sont des choses dont on parle jamais. Alors qu'en fait, ce sociologue, dans ce livre, montre à quel point c'est essentiel et à quel point, si on ne comprend pas et si on n'analyse pas et si on ne parle pas de ce qui occupe beaucoup les gens, les jeux, et de ce qui occupe de plus en plus nos chères têtes blondes, eh bien en fait, on ne peut pas comprendre dans quel sens on va, dans quelle direction on va, etc. Donc on était hyper contents d'avoir une occasion de parler jeu, sachant que moi, je suis pas du tout un joueur de jeux d'arcade, de jeux vidéo, ce qui n'est pas mon cas. Toi, t'es un joueur. D'ailleurs, à cette occasion, tu avais fait une chronique, ce que tu as beaucoup fait dans l'émission, pour expliquer ta passion du jeu, ton intérêt pour le jeu. Et autre chose aussi, bah, là, typiquement, je tutoie l'invité, ce qui a été toujours un gros débat dans l'émission. Un débat sans fin, un débat intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est un débat et que ça pose question. Notre position dans cette émission étant de dire qu'on tutoie au micro les personnes qu'on tutoierait.
Par souci de transparence.
Dans la vraie vie, par souci de transparence. Mais parfois, c'est vrai que c'est choquant et parfois, on ne l'a pas appliqué. Il y a des patrons qu'on n'a pas tutoyés parce que même si on les tutoyait en dehors, bah, c'était un peu bizarre de les tutoyer parce qu'ils représentaient une institution et que. On ne pouvait pas tutoyer le représentant de cette institution.
9 janvier 2016.
Je vous invite maintenant à vous remémorer cet âge particulier qu'est l'adolescence. Rappelez-vous le début des grandes amitiés, des déceptions affectives, des amours. Souvenez-vous de votre corps qui change, votre voix
qui mue, vos parents qui vous comprennent plus ou moins.
Alors, je suis certain, bonne transition, hein. Finalement, ça va très bien avec ce qu'on vient de dire sur le jeu. Donc là, c'est une série qu'on a faite avec des élèves, avec des étudiants en journalisme de l'IPJ, et qui s'appelle Bienvenue en Adosphère, et qui était assez édifiante parce qu'on a fait plein d'entrées sur la manière dont les adolescents vivent notre univers médiatique. Il y a eu d'ailleurs une entrée assez importante sur les jeux et l'importance des jeux en réseau.
Oui, en fait, on y a été de façon assez humble. Moi, ma fille était déjà un peu grande, mais n'était pas encore ado. Toi,
aucune connaissance de cet univers.
T'étais pas encore papa. On n'avait pas d'ado.
Il se passait vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Voilà, on savait qu'il se passait quelque chose. On savait qu'il y avait un désamour de Facebook de la part des plus jeunes qui
d'ailleurs étaient exclus pour beaucoup, puisqu'ils n'avaient pas le droit de créer de compte avant 13 ans, ce qui n'était pas le cas d'autres réseaux.
Et surtout, nous, on commençait déjà à être trop vieux pour se lancer dans Snapchat. Donc, on commençait à se rendre compte qu'il y avait des nouveaux services sur lesquels on n'avait pas forcément envie d'aller.
Et on n'est toujours pas allé d'ailleurs. Et ils sont en train de disparaître. Pour notre chance.
Et on savait qu'eux, ils avaient un rapport très différent de ce qu'on entendait généralement sur eux. Et ce jeune garçon qu'on entend, son témoignage, il est hyper édifiant parce qu'il démonte tous les mythes dès l'introduction de notre série qui va durer 3 fois 48 minutes. Quand même.
Alors déjà, en fait, si tu veux, nous, pour notre émission, on a dit qu'en fait, on travaillait sur l'adosphère. Est-ce que toi, tu vois ce que ça pourrait être, l'adosphère ?
C'est le monde des adolescents.
Est-ce que tu... Alors, je me rapproche un peu parce que je suis un peu avec le micro. Est-ce que tu vois, en gros, comment on pourrait définir, du coup, le monde des adolescents ?
Les réseaux sociaux... Un peu la vision des adultes, des plus jeunes.
C'est quoi la vision des adultes des plus jeunes ?
Des personnes qui passent leur journée dans Facebook.
Tu penses que c'est comme ça que les adultes voient les ados ?
Ouais.
Et toi, tu les vois comment, du coup ?
Je les vois pas du tout comme ça. Enfin, je les vois comme des personnes normales.
Ça veut dire quoi, normal ?
Bah, qui passent pas leur vie devant Facebook, qui sortent un peu, qui voilà. Quoi.
Donc pour toi, les ados se définissent pas par rapport aux réseaux sociaux ?
Ça dépend pour qui, en fait. Pour les adultes, ça se définit par les réseaux sociaux. Par contre, pour les plus jeunes et eux-mêmes, bah ça se... ne dépend pas du tout par ça. C'est pas comme normal.
Comment est-ce que toi, tu pourrais les définir, du coup ?
Des personnes qui aiment beaucoup sortir, mais qui aiment bien le montrer aussi sur les réseaux sociaux, mais pas de manière excessive, comme le pensent les adultes.
8 juillet 2017.
Le 2 juin 2016, Bruno Van Wassenhove était parti couvrir pour France 3 une des nombreuses manifestations organisées contre la loi travail à Rennes. Après un défilé dans le calme, un petit groupe de manifestants décide de poursuivre la marche en direction de la Rocade, ce périphérique routier qui entoure la cité bretonne. C'est là que la situation dérape, comme Bruno le raconte dans un texte publié quelques jours plus tard sur le site du Club de la Presse de Rennes et de Bretagne.
Je te lis le texte, hein, c'est ça ? C'est violence policière, la réalité des faits, je te lis tout ou...
Ouais.
Donc là, il y a un surtitre. Ces violences policières nous empêchent de travailler correctement. Depuis jeudi soir, c'est un peu l'emballement sur Internet avec du qui frappe qui et du qui harcèle qui.
Je crois que celle-là, c'est une des plus réussies en termes de narration. De comment on capte l'attention de l'auditeur dès le départ, en lui racontant une histoire et en intégrant des témoignages et une ambiance.
Il y a eu vraiment une recherche, et d'ailleurs, c'est une émission qui a pris vraiment 6 mois de travail. Les gens ne se rendent pas compte, mais vraiment, c'est une émission qui a pris 6 mois de travail, des centaines d'heures d'entretien, des centaines d'heures de dérush, de montage, etc. Et en plus, la volonté pour nous deux d'essayer de tester des éléments narratifs différents, etc. Alors, ce sur quoi, en réécoutant, je trouve qu'il y a des choses qui sont réussies, des choses où on a moins réussi, c'est normal. Pour la faire, celle-là, par exemple, on avait 2 semaines devant nous, juste pour finaliser l'émission, je ne sais pas si tu te souviens, on a fait plusieurs versions, ce qui est quand même du luxe total. On avait tous les éléments, on avait tout mixé, on avait déjà un premier mixage, et il nous restait 2 semaines pour la diffuser. Donc, c'était confortable. Ce qui n'arrive strictement jamais. Alors, et moi, c'est ça. En tout cas, ça marque une réorientation sérieuse, c'est que Je pense qu'il faut du temps pour faire les choses de manière inventive, etc. Et alors c'est vrai qu'il faut au moins s'arrêter un moment pour faire les choses bien, et puis peut-être ensuite retrouver une routine, mais en ayant acquis l'expérience du temps, de l'arrêt, de ce pétrin qu'on va voilà, retravailler plusieurs fois pour arriver à quelque chose qui nous satisfasse. Moi, j'aurais bien attendu encore un mois, travailler encore un mois avant de diffuser ce résultat, pour que derrière, ben, le travail serve pour qu'on aille beaucoup plus vite les fois d'après. Mais ça, pour moi, c'est important aujourd'hui, et ça, c'est un peu la nouveauté des nouvelles formes de radio. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui penser la radio non pas comme quelque chose qu'on va consommer sur l'antenne uniquement, rapidement, et qui doit être terminé, mais comme quelque chose qui va durer, et que du coup ça vaut le coup que les œuvres restent très très longtemps et soient travaillées pour parler pendant très longtemps aux gens.
7 octobre 2017.
Atelier des médias, vous écoutez RFI, nous explorons aujourd'hui l'univers des conférences gesticulées. Un exercice de formation, de partage d'expériences, de récits autobiographiques en public. Une forme inventée en France en 2005 par Franck Lepage.
C'est extraordinairement important de partager ce qu'on a compris, ce qu'on a vécu, auquel les autres ne peuvent pas avoir accès dans le champ qui est le nôtre. Une assistante sociale qui part à la retraite après 30 ans de carrière, elle a un savoir politique phénoménal, mais elle ne le reconnaît pas comme savoir politique. Jamais elle va dire « je vais écrire un livre », tu vois, elle n'est pas légitime, puisqu'il faut être du CNRS pour écrire sur les politiques sociales. Or, cette femme qui a 30 ans de mise en œuvre, tu vois, de politique sociale sur un département, elle sait plein de choses. Si tu l'invites chez toi, si c'est ta belle-sœur, elle est passionnante, elle va te raconter plein d'anecdotes de femmes qu'elle a rencontrées, qui étaient dans... Enfin, tu vois, je veux dire. Et donc, ce savoir-là, il n'est pas partagé. C'est ça, l'éducation populaire, c'est de mettre ce savoir-là en partage. Et c'est de décider qu'on a un savoir. Tout le système éducatif nous dit, nous n'avons pas de savoir. Nous sommes ignorants. Et, d'accord, pour avoir un savoir, il faut... c'est la question du savoir légitime, Bourdieu. Mais donc, ce que je trouve magnifique dans le mouvement des conférences gesticulées, c'est de dire, mais si, t'as un savoir, bien sûr.
Dernier extrait. Et c'est un phénomène que toi, tu as découvert tardivement. Hein, moi, je ne l'ai pas du tout découvert. Mais
c'est un phénomène, ce sont les conférences gesticulées.
Exactement.
J'explique au début de l'émission ce qui s'est littéralement passé. C'est qu'un jour, j'étais en train d'interviewer une dame pour une émission qu'on a faite sur les startups, enfin sur l'idéologie startup. Et en partant, quelqu'un s'est présenté et m'a parlé de sa conférence gesticulée sur l'Internet. Et je n'avais jamais entendu parler de ça. Et ça m'a bien évidemment intrigué, intéressé. Et en déroulant le fil, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai phénomène national, plusieurs formations et plusieurs personnes qui avaient fait des conférences gesticulées. C'était un petit peu connu dans certains milieux, mais que c'était ignoré de la plupart des gens, et on en a profité pour faire un sujet sur ce phénomène des conférences gesticulées qui était vraiment super intéressant.
Si quelqu'un se met à faire du théâtre, on va le juger sur la qualité théâtrale de ce qu'il fait. Et donc on va regarder s'il est bon acteur, s'il imite bien, d'accord. C'est totalement parasite. D'abord parce qu'il y a très très peu de bons acteurs. Il faut des années et des années de théâtre pour être un bon acteur, moi je pense, pour ceux qui ont autant de mauvais théâtre. Non, la conférence gesticulée, c'est une forme très pauvre en fait. Et je dirais presque que plus c'est mauvais, plus c'est mal foutu, enfin plus on voit la personne hésiter, plus on la voit sincère. Et en fait, ce qui touche les gens, c'est cette sincérité. On a fait une conférence gesticulée avec 6 conseillers de Pôle emploi. Du point de vue théâtral, c'était pas, il y avait pas de mise en scène, si tu veux, il y avait juste, ils passaient les uns après les autres. Donc c'était pauvre théâtralement, mais j'ai vu des gens pleurer dans la salle, tellement ils étaient touchés par ce qu'ils se disaient, parce que la conférence gesticulée, elle s'adosse à une nécessité pour la personne.
Et moi, je trouve ça très intéressant, ce que dit Franck Lepage. Et en fait, je trouve aussi qu'on est à une période où on a beaucoup de chances qui sont encore sous-exploitées dans ce domaine, c'est-à-dire que pendant très longtemps, pour transmettre, il fallait nécessairement écrire. Aujourd'hui, on est à une époque où on peut transmettre, et même peut-être pour des générations et des générations, sans écrire, soit en enregistrant, c'est ce que nous on aime faire, soit en filmant, c'est ce que d'autres font très bien, parfois à 12 ans dans leur chambre, et ils transmettent, et souvent ils font preuve, parfois, peut-être pas souvent, ils font preuve d'un talent incroyable et ils émergent sans connexion, sans connaître personne, sans savoir-faire, sans marketing, etc. Parce qu'ils ont un talent et parce qu'ils ont des outils qui leur permettent d'émerger. Et je trouve que c'est une chance. Pendant très longtemps, on disait que tout ce qui n'est pas écrit est perdu, que les conteurs, c'était quelque chose qui était très bien, etc. Mais qu'heureusement, quelqu'un avait transcrit l'Iliade et l'Odyssée, parce que sinon, ça serait resté des contes populaires et personne ne connaîtrait ces histoires. Et bien aujourd'hui, c'est possible de transmettre sans écrire. Et on ne sait pas pour combien de temps, il y a un enjeu de conservation, d'archives, de diffusion, mais c'est possible. Et ce n'était pas le cas avant, et ça c'est une chance dont beaucoup de gens sont en train de s'emparer, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de domaines, y compris, peut-être même en particulier celui de l'audio et de la radio, où on ne s'en empare pas suffisamment encore. On n'est pas encore suffisamment en train de, je pense, de raconter des histoires, non pas pour ses contemporains, mais pour la postérité en radio.
Que te dire, Ziad? Bon, ton départ est arrivé tellement vite.
Ouais, c'était un peu soudain pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je pose des congés qui finissent et puis après je reviendrai pas. C'est une histoire d'antenne, quoi.
D'abord, félicitations pour le nouvel enfant à venir.
Merci. Ah,
c'est un moment de fête et t'as bien raison. Je l'ai fait déjà pour ton premier enfant, de consacrer ton temps à vivre ce moment-là et à dire que le travail, c'est très important, c'est un moyen d'épanouissement, mais que la famille, c'est encore plus important. Et donc ça, c'est à saluer, parce que la génération de nos parents, quand je parle des papas, n'était hein, pas du tout dans cet esprit-là, et définitivement, tu fais partie des modernes. Ouais. On a passé 8 ans, on a bougé partout, enfin dans beaucoup d'endroits, on a vécu des moments hyper forts, on l'a dit.
8 ans en plus, pendant lesquels, je te coupe 2 secondes, on habitait en face en l'un plus, de l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on passait, je disais souvent qu'avec toi, on passait 11 mois de l'année à moins de 50 mètres l'un de l'autre, parce que soit on travaillait ensemble, soit on habitait, et littéralement, mon balcon donnait sur le tien. Quoi.
Donc, ça déstabilisait beaucoup les gens quand on leur racontait ça.
Quand on remplissait les trucs, on donnait nos adresses, on habitait dans la même rue, juste à 2 numéros différents. C'était un hasard. Hein.
Pendant des années, on a fait faire des économies à RFI.
Oui, parce qu'on partageait les taxis. Exactement. Pour aller en mission.
Ça, c'est... Bon, voilà, on l'a dit, on a été en Tunisie, au moment de la libération, on a été en Libye, même si c'était très différent l'ambiance à Tripoli. Mon doblog, ça a été une expérience incroyable de rencontres humaines. Je pense que peu d'émissions ont la chance de pouvoir être autant au contact de ses auditeurs. Ça a été un labo d'expérimentation où on a tester des formes, des fonds, des... On a vraiment essayé de faire tout ce qui nous semblait le plus pertinent pour RFI. Et franchement, si tu t'en vas, c'est extrêmement triste, mais droit dans tes bottes. Bonne chance, Ian.
Merci. The ground.